compte dans 14 pays d'Afrique, Suno Assurance vous fait profiter d'une assurance santé complète et efficace où que vous soyez. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Une hospitalisation de longue durée, c'est une parenthèse, des repères bouleversés avec de nouveaux rythmes, de nouvelles règles. L'hôpital, un environnement où l'intimité est rarement droit de cité, qui reste souvent associé au stress ou tout simplement à l'ennui, surtout pour les enfants. Au-delà de la prise en charge médicale, cette plongée dans ce monde à part peut être égayée, animée par des acteurs que l'on n'attendait pas forcément dans un cadre aseptisé. Les enseignants, bien sûr, mais aussi des clowns, des plasticiens, une séance de cinéma pour ceux qui peuvent se déplacer, et au quotidien, des bénévoles qui proposent un jeu, de la lecture, un moment à partager. Ce temps d'échange, de création nécessite une organisation complexe, directement pensée avec l'équipe soignante, des respirations dont les bienfaits thérapeutiques sont démontrés, des échanges privilégiés qui reposent sur la générosité, le don de son temps, de son énergie, de son empathie, de son inventivité pour permettre au plus grand nombre de mieux vivre leur hospitalisation. Une émission que nous avons baptisée « La vie continue à l'hôpital » et c'est assez rare plateau 100% féminin aujourd'hui. Avec nous, Marie-Cécile Lefort, bonjour. Vous êtes infirmière coordinatrice adolescents jeunes adultes à l'Institut Curie. En studio également, Caroline Simons, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de l'association Le Rire Médecin, directrice artistique et toujours clown à l'hôpital. Élodie Thébault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de l'association NOC, Nous on crée, qui propose des ateliers d'art plastique aux enfants et aux jeunes adultes hospitalisés pour maladies graves. Vous êtes également professeur d'art plastique à l'Institut Curie. Et avec nous, enfin autour de cette table, Béatrice Collat-Delanoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bénévole pour l'association La Main dans la Main à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Le 7e art à l'hôpital, nous serons en ligne avec Isabelle Zwanda, directrice générale de l'association Rêve de Cinéma, qui diffuse des films à l'affiche aux enfants hospitalisés. Et puis bien sûr, pour poser vos questions ou pour témoigner, notre numéro, c'est le 33 84 22 75 75.
RFI.
Une hospitalisation que la maladie impose, avec elle l'inévitable rupture lorsque ce séjour à l'hôpital doit se prolonger. Des séjours qui peuvent durer, c'est une réalité lorsque l'on travaille à l'Institut Curie à Paris. Marie-Cécile Lefort, dans votre service, des adolescents, des jeunes adultes atteints de cancer, forcément parcours de soins assez long, traitement assez lourd. Et au-delà du volet médical, il y a tout d'abord, pour beaucoup d'entre eux, la scolarité, les études qui se poursuivent. Et ça, c'est très important.
Oui, tout à fait. Quand un jeune qui est âgé dans notre service de entre 15 et 25 ans arrive, on va lui proposer un projet de soins. Mais ce projet de soins, qui est souvent, c'est plusieurs mois de traitement, c'est très très long souvent. Et projet de soins, il ne peut pas aller. Il va falloir qu'il s'accommode aussi avec son projet de vie. Et souvent à cet âge-là, on est en train de construire sa vie, on est en train de faire des études, et ça fait partie de la vie du jeune. Donc il va falloir au mieux concilier projet de soins et projet de vie. Donc en tant qu'infirmière coordinatrice, on va être vigilant suivant là où il en est de sa scolarité, à avoir à la fois des professeurs bénévoles qui viennent quand ils sont scolarisés et qui viennent à l'hôpital quand ils sont hospitalisés, et à la fois des professeurs aussi quand ils ont des périodes de retour à la maison. Il y a un lien entre ce qui se passe à l'hôpital et ce qui se passe à la maison au niveau de la scolarité. Voilà, l'hôpital peut aussi faire passer des examens, tels que le brevet des collèges, le bac, et même des examens de faculté. On arrive à avoir des accords, et pour que le projet de soins et le projet de vie soient ensemble sur tout leur parcours de soins.
Alors justement, on dit la vie continue à l'hôpital, malgré tout, ce n'est pas qu'un cliché, l'ennui, c'est véritablement un ennemi qui peut se révéler redoutable à l'hôpital, Marie-Cécile Lefort, parce que l'ennui, c'est mauvais pour les malades, c'est aussi mauvais pour tout le monde, à l'hôpital, y compris les soignants, parce que ça peut vraiment nuire à l'observance.
Oui, alors dans le service où je suis, je m'occupe d'une tranche d'âge un peu particulière, hein, des 15-25 ans, donc ce qu'on appelle les adolescents jeunes adultes. Donc le service, il est fait à la fois pour respecter leur intimité, avec des chambres seules, hein, et puis des moments où ils ont peut-être envie d'être seuls. Hein. Qui ne connaît pas un ado qui est chez lui, enfermé dans sa chambre et veut être tranquille?
Le problème, c'est plutôt de le sortir de sa chambre.
Voilà. Mais il faut respecter aussi ces moments d'intimité. Hein. Donc l'hôpital est fait pour à la fois proposer ces moments d'intimité, mais aussi des propositions, sans le forcer. Hein. Ça va être des propositions, que ça soit des propositions de création, des propositions de rencontre d'autres jeunes, avec des soirées crêpes, des choses comme ça, de toutes sortes de propositions, des ateliers d'écriture, des plein de formes d'expression qui vont être à sa disposition, qui vont être proposées par une animatrice qui va faire le lien avec tout ça. Mais ce ne sera jamais, entre guillemets, obligatoire. Ce sont des propositions qui va s'en saisir ou pas.
Rien n'est imposé. Précisément, à l'Institut Curie, vous enseignez les arts plastiques. Élodie Thébault, pourquoi avoir choisi d'exercer votre activité dans ce milieu si particulier?
Vous parliez de l'ennui tout à l'heure. Je pense que les périodes d'hospitalisation en oncologie sont très très longues. Les enfants sont là pour une année au minimum. Donc je trouve que un atelier d'art plastique, un atelier de création dans ce type de service a vraiment du sens. Ce qui nous permet de permettre aux enfants de vraiment réaliser des créations abouties. On prend le temps de bien faire les choses, on prend le temps de créer, on prend le temps de réfléchir, de se cultiver, d'observer des livres, de regarder. L'atelier, comme disait Marie-Cécile, rien n'est imposé. L'atelier est avant tout un espace de liberté. On a le droit de ne pas y venir, on a le droit d'y venir pour ne rien faire. On a le droit de venir juste pour rencontrer les autres, pour échanger avec eux autour de bouquins d'art plastique ou autour de la maladie, mais rien n'est imposé.
Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce cadre, ça veut dire, Élodie Thébault, vous dites atelier, c'est toujours dans un local dédié?
Absolument. Il s'agit d'un espace qui est dédié à la création, avec des grands placards et plein de matériel spécifique dont nous avons besoin pour vraiment leur permettre, leur donner les moyens de créer et d'avoir des œuvres.
Alors avant de donner la parole à nos deux autres invités, question juste, je me retourne vers vous Marie-Cécile Lefort, sur l'organisation des activités dans le parcours de soins. Vous l'avez dit tout à l'heure, votre service, c'est pas coutumier des autres hôpitaux où on a un petit peu l'image 5h30, 6h, réveil, petit déjeuner, allez hop, tout le monde debout, c'est un petit peu difficile parfois. Là malgré tout, quand il y a un emploi du temps pour ces ateliers, on s'adapte au niveau des soins pour laisser une forme de disponibilité aux jeunes qui voudraient rejoindre ces ateliers. Comment ça se passe?
Alors, c'est toute la subtilité. Il y a un cadre, quand même, parce que ben, c'est des bénévoles qui viennent, ils ne peuvent pas être disponibles. Il y a un cadre, mais avec une souplesse dans le cadre. C'est-à-dire que, ben, par exemple, des ateliers, on va citer les ateliers d'art plastique, bon, ben, elles ont lieu, par exemple, tel après-midi, le jeune peut y aller, mais le jeune peut aussi être fatigué, le professeur d'art plastique peut aussi se déplacer dans la chambre. Voilà, on va s'adapter tout en ayant quand même un cadre et des impératifs, et tout ça c'est suivi, je vous dis, par l'animatrice qui va gérer ça, créer un cadre tout en accordant des souplesses.
Quoi. Avec une grande souplesse. Donc Caroline Simons, toujours clown à l'hôpital.
Toujours.
L'histoire de votre association, Le Rire Médecin, qui intervient aujourd'hui dans 15 hôpitaux différents, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Cette histoire du Rire Médecin, c'est votre histoire.
C'est mon histoire, mais c'était pas pour le garder pour moi. Je trouve que le clown, dans son essence, il est naïf et généreux. Et je pense que mon intention, quand je suis venue en France, après 3 ans de pratique aux États-Unis, c'était quelque part de transmettre ce que je savais faire, savais être aussi, une trouble fête, une fou de village, comment transmettre l'indicible. Mais mon intention, c'était de transmettre et puis peut-être partir. Alors, je suis restée. Ça fait 27 ans, je suis restée parce que la joie de transmettre ce métier, voir les résultats dans les yeux des enfants, quand on les visite une par une dans leur chambre, on est très mobile, on est complémentaire à tellement d'autres activités, ça qui est peut-être intéressant dans cette table ronde aujourd'hui, elle marche, quoi. On ajoute quelque part une vitamine C pour l'âme, qui stimule l'imaginaire et à la fois peut apaiser aussi. On fait du sur-mesure aussi. Il n'y a pas que dans les soins, il y a aussi dans l'amusement, dans l'art. L'art est fait pour stimuler, aussi pour apaiser. Elle est faite pour faire révéler les couleurs de toutes les émotions. Et ça, à l'hôpital, le monde se rétrécit des fois pour les enfants. Ça ça devient, on marche de là à B, on va dans un soin, on attend l'autre soin, on attend la visite des parents. Donc ces moments de l'art plastique, de la main dans la main, quelqu'un qui va visiter, qui va s'intéresser à leur personnalité et pas à leur maladie, c'est des moments vitaux. Et nous, on est fiers de faire partie de tout ce village de soins, quelque part.
Alors, les enfants, ils réagissent comment face aux clowns? Ils se positionnent comment? C'est quoi? C'est des observateurs, des acteurs? Ils commandent? Qu'est-ce qu'ils font exactement?
C'est comme au marché. Il y a des fraises et des haricots verts. Il y a des bébés qui gazouillent. Il y a des ados.
Il y en a qui vous mettent à la porte?
Ah, bah oui, j'allais dire. Il y a des ados qui disent prendre la porte. J'ai eu une fois deux clowns qui ont décroché les portes. Ils sont partis avec. L'ado, il a resté la bouche ouverte 10 minutes. Puis les infirmières ont raconté ça pendant des années. Mais il y a de tout, quoi. Il y a des parents très inquiets. Ça les fait du bien de voir leur enfant prendre du plaisir. Des fois, le plaisir, elle est simple.
Mais au début, il peut y avoir une sorte d'appréhension, une forme de résistance. Et puis après, ça fond. Non? Ça y va directement. Non, je parlais des parents. Je parlais pas des enfants.
Parents, ça se peut surtout au début, quand il y a un diagnostic de lourd qui tombe, on est très protecteur de son enfant. Moi, le premier, mon enfant a 38 ans, ça va, je suis toujours mère poule.
Mais c'est comme vrai que des fois, quand on est à l'hôpital, même quand on entend des infirmières rire, au début, ça agace. Et puis à la fin, ça fait très plaisir. Parce qu'encore une fois, la vie continue. Au début, c'est vrai qu'on dit, mais comment est-ce qu'elles peuvent rire avec ce que je suis en train de vivre? C'est incroyable. Et puis finalement, ces clowns, c'est pareil.
Ça découpabilise les mamans, les papas de prendre du plaisir face à un cancer de leur enfant ou un mucoviscidose ou un drépanocytose. Enfin, il n'y a pas que le cancer. Il y a des maladies chroniques terribles. Enfin, moi, j'étais avec une petite fille la semaine dernière en hôpital de jour à Debray. Elle me dit, alors la girafe, t'as des amoureux? 16 ans, tu vois. Moi, je suis un personnage. Je suis pas Caroline, hein. Là, je suis mariée depuis 35 ans. Attention.
Alors, Caroline Simons, votre surnom, votre nom d'artiste, c'est donc la girafe.
Ouais, mais elle me dit, alors, t'as des amoureux? T'as un amoureux, non. Je dis, bah oui. Bah, lundi, c'est Chips. Mardi, c'est Monsieur Reblochon. Mercredi, c'est Loulou Poirot. Puis elle ouvre grand les yeux à 16 ans. Et mon partenaire, et on est deux toujours. Parce que il y a du conflit et de l'amour. Toi, on fait du théâtre, on est pas dans le copinage. Et mon partenaire dit, oui, non, c'est pas comme ça. On est fidèles jusqu'à la fin de la vie. Et la petite fille a pris, enfin, la petite fille, la jeune femme a pris son côté aussi. Donc, il y avait déjà quelque chose qui sortait de l'hôpital, quoi, et qui le préoccupait. C'était un enfant qui a une maladie chronique. Je le connais depuis 10 ans. Elle est là tous les mercredis pour un traitement lourd. Et c'est les maladies invisibles. Ça se voit pas qu'elle est malade. Et en même temps, elle vit une vie qui est difficile. Et il faut que ça continue à l'hôpital, cette vie amoureuse, ces rêveries. C'est super important. L'art est simplement comme un véhicule pour nous amener ailleurs.
Béatrice Delannou, Colas Delannou également autour de cette table, bénévole au sein de l'association La Main dans la Main, reconnue d'utilité publique depuis 1999. Comment ça se passe, une de vos journées que vous passez à l'hôpital Necker?
Alors moi, je suis en hospitalisation de jour, c'est-à-dire que les enfants arrivent le matin assez tôt et repartent le soir quelquefois très tard. Donc c'est à porter un moment de récréation. Les enfants que je connais sont là depuis très longtemps. Moi, je suis bénévole dans cette association depuis 12 ans. Donc, on arrive et en fonction de l'âge des enfants, de 3 mois à 20 ans, on adapte un jeu ou une proposition de jeu. Et il est étonnant de voir que chez des petits, tout petits enfants, le petit enfant est porté vers la personne qui arrive de l'extérieur. Moi, je suis pas une infirmière, j'ai un petit t-shirt bleu. On propose une petite chanson, ou on rit, ou on lui fait les marionnettes. Il est très très content, et généralement, il vous tend les bras, ce qui, moi, personnellement, me bouleverse. Après, pour les plus grands, les maladies qui les amènent là pour des traitements longs, enfin tout au moins répétitifs pendant des années, on s'adapte, parce qu'il y a des enfants qui sont très très intelligents, très vifs, très brillants, puis il y en a d'autres qui ont des petits retards, donc en proposant son jeu, il va falloir deviner un petit peu ce qu'il souhaite. Mais ce moment, il a quelque chose d'extraordinaire parce que on s'aperçoit qu'un enfant qui est hospitalisé, là c'est une hospitalisation de jour, il a envie de jouer. Et au moment où on commence le jeu, où on s'amuse, moi aussi, je m'amuse beaucoup, je triche pas, eh bien, il y a comme si les perfusions n'existaient plus, les fils de temps en temps, on pousse un grand cri dans un jeu de cartes, alors on tire sur un fil, l'infirmière arrive en disant pas trop de bruit, mais il y a un jeu partagé qui, je pense, fait qu'à ce moment-là, ils sont plus à l'hôpital et que moi, je m'amuse beaucoup. Et l'autre chose, il y a ce rapport avec les enfants qui est très chaleureux et très amical, parce que finalement, moi, je viens deux fois par semaine. Les enfants vous attendent, vous appellent, vous demandent quel jour vous allez revenir. Et puis, il y a aussi les parents. Alors, il y a plusieurs sortes de parents. Les parents qui veulent rien entendre de la maladie des enfants, qui se réfugient pratiquement sur un fauteuil ou presque sur le lit pour se reposer. Il y a ceux qui sont sur le bord et qu'on peut invité au jeu, et qui finalement, en voyant la vieille dame que je suis jouer avec plaisir, eh bien, vont se mêler au jeu, vont apprendre à jouer à un double, à un uno, enfin, à des jeux qui sont la base, ou alors à des jeux plus sophistiqués. Donc, c'est un partage qui est très exceptionnel. Alors,
je vais vous couper, Béatrice, je vais vous poser une question. Est-ce que les enfants se confient à vous? Est-ce qu'ils vous parlent de leur maladie? Est-ce que vous savez ce dont ils souffrent?
Alors, en principe, la bénévole, qui n'est pas du tout soignante, ne doit pas savoir ce dont souffrent les enfants. Il est très rare qu'un enfant parle de lui-même d'une situation familiale qui est très souvent douloureuse ou de la situation de son handicap. Et parce que, d'abord, je pense que je ne suis pas tellement habilitée à savoir des choses comme ça. Ils voient des psychologues et des trucs, donc nous ne posons jamais de questions. Quelquefois, l'enfant va poser une question. Je lui dis, par exemple, je te trouve d'une patience extraordinaire, tu m'as appris un nouveau jeu, etc. Oh là là, je suis sûre que plus tard, tu pourras apprendre quelque chose, enfant. Elle m'a dit, oui, mais je serai toujours en fauteuil.
Je vais me poser vers Caroline Simmons avec la même question. Vous savez ce qu'ont les enfants quand vous entrez dans une chambre ou c'est on va
tout
dire
à fait.
Vous le savez par contre.
Absolument, parce qu'on fait ce qu'on appelle une transmission le matin en civil, on est sermenté au vrai médecin à notre propre code de déontologie, donc on est tenu au secret médical contractuellement chaque mois, chaque comédien qui sont des intermittentes, mais on sait pour pouvoir adapter notre jeu. Et c'est essentiel de savoir si l'enfant est douloureuse, si un diagnostic vient de tomber. Les parents peuvent être bouleversés, donc on fait absolument pas du psychodrame. On est des comédiens, on tient une bonne distance. On n'est pas là pour, comme je vous ai dit, de faire du relationnel. On est là pour apporter du merveilleux, de la féerique, faire rêver. C'est pas notre rôle. Des parents, ils ont des amis, ils ont des soignants qui parlent de ça. On n'est pas des thérapeutes.
Et vous sentez quand vous sortez de la chambre que quelque chose a changé?
J'espère qu'il y a quelques paillettes dans les yeux et
déjà ça s'entend avec les rires, mais
non, mais un bébé qui est passive dans son berceau, même un tout petit bébé, quand on fait des jeux de doigts et on chante une berceuse dans sa langue ou la langue de sa mère, on fait chanter sa mère, très souvent, on essaie vraiment de faire participer les parents et les soignants le plus, et quand les petits pieds se gigotent, on sait qu'on a activé quelque chose de très positif dans cette bébé. Pareil pour un ado qui regarde le plafond pendant des heures. Si on part et on voit qu'il commence à parler avec son voisin de chambre, on sait qu'on a réussi quelque chose. C'est des petites signes comme ça qui fait que on sait que peut-être on transmet un peu de résilience, peut-être.
Alors cet impact positif, Marie-Cécile Lefort, est-ce que les équipes qui vous entourent à l'hôpital communiquent sur ce sujet? Ils disent, là il s'est passé quelque chose, on a peut-être passé un cap, notamment dans la communication.
Oui, tout à fait. Souvent, L'exemple que j'ai envie de donner, c'est souvent le jeune, il arrive pour la première hospitalisation, c'est le début du, on vient d'annoncer le diagnostic ou c'est le début de l'annonce du diagnostic, et souvent il ne veut pas sortir de sa chambre, hein, il est très enfermé, et c'est à nous soignants, on va apprendre à le découvrir, et c'est à nous d'essayer de créer un lien. Et quand on a réussi à ce que il sorte de sa chambre ou qu'il aille parler avec d'autres, on est content, on échange entre nous en disant il s'ouvre. Donc s'il s'ouvre à travers des activités, il va s'ouvrir aussi, les soins vont être facilités.
Alors on va revenir à cet atelier d'art plastique que vous dispensez à l'Institut Curie, Élodie Thébault. Comment est-ce qu'on se prépare à enseigner dans ce milieu particulier? Est-ce qu'il y a une formation précise, particulière?
Il y a une adaptation à avoir et une formation effectivement spécifique. C'est un enseignement qui est vraiment adapté et une pédagogie vraiment particulière pour les enfants en traitement de longue durée. Donc l'atelier, il y a un atelier à l'Institut Curie, mais un deuxième atelier à l'hôpital Necker enfants malades avec un service de néphrologie. Donc c'est une autre forme d'adaptation par rapport aux pathologies, par rapport aux espaces, par rapport aux temps de vie qui sont différents. Donc effectivement, il faut vraiment une formation spécifique.
Élodie Thébault, Béatrice Colla de Lanou, je vous donne la parole, Caroline Simons, Marie-Cille Lefort. On va se retrouver dans quelques instants. Je vais vous donner la parole. Vous voulez réagir à l'instant? Allez-y.
Oui, c'est que au Rémédecin, on était obligé de créer une formation dès le départ, qui est une formation continue. Tous les mois, on se réunit pour une formation, par exemple, sur l'oncologie, pour comprendre la douleur. Aussi, on fait des formations pour la marionnette, pour pouvoir l'adapter dans tous les milieux. Mais aussi, on a une formation certifiante maintenant, qui forme des comédiens professionnels pour travailler dans les milieux de soins, pas spécialement au Rire Médecin. Quelque part, on a créé notre propre concurrence et j'en suis très heureuse.
Alors, on va vous retrouver juste après une petite bande-annonce qui va avoir justement pour vous un petit air de flashback.
Hein? La chanson de Prout.
Moi?
Ben oui.
Oui, il est comme ça.
Ben voilà.
Hein? Toi, t'es toc-toc.
T'es toc-toc.
Tu vois comme il casse la tête, hein?
Tu casses la tête?
Ouais, je te casse la tête.
C'est Cécile, tu prends ma tension.
Ouais. Ah, je suis. Non.
Je l'ai pas coiffé.
Oh non. Au secours, viens.
Quand vous allez partir, vous m'oubliez pas surtout.
Oh bah non, non.
Je vais dormir là.
Vous l'avez dit.
Bande-annonce de Jour de Clown, un documentaire réalisé il y a 8 ans déjà par Olivier Horn, Caroline Simons. Vous comprenez, quand on est témoin de ces numéros, de ces interactions entre enfants et clowns, on est tiraillé entre rire et larmes. Honnêtement, ça, c'est absolument bouleversant.
Pas pour nous. Enfin, parce qu'on est un peu comme les pompiers, on est dans le feu, on éteint la tristesse, on essaie de soulager les angoisses et les douleurs. Je comprends, même quand je regarde le film, je pleure toujours ailleurs dans ce film. Et je suis derrière le nez rouge, j'ai une femme. Hein. Mais dans l'action, on est vraiment très concentré, on est dans une espèce de mouvance de chercher qu'est-ce qui est juste dans le moment. Donc, comme mes clowns, il y en a 97 clowns maintenant dans 15 hôpitaux, ils sont formés et puis ils sont très sensibles. On les choisisse pour une grande quantité d'empathie chez eux, mais égale à leur talent et égale à leur curiosité. Si on n'a pas réuni ces 3 ou 4 qualités, on peut pas exercer ce métier. Il faut énormément d'empathie, mais s'il y avait que ça, encore une fois, on tombe dans les copinages. S'il n'y avait que de l'ego d'un super pointure, on ne va pas pouvoir être aussi sensible à chaque situation. Donc, je cherche quelque part les perles rares et on essaie de prendre soin d'eux. parce qu'ils sont précieux.
Marie-Cécile Lefort, on parle au quotidien de cet hôpital qui parfois a du mal à rester humain. On voit ses interventions, ses récréations. Est-ce que pour le personnel soignant aussi, c'est important d'avoir ces visiteurs de l'extérieur, qui deviennent donc, on l'a compris bien, des acteurs, mais d'avoir justement ce souffle de l'extérieur qui redonne pas de l'humanité, parce qu'il y en a plein d'humanité à l'hôpital, mais qui redonne un souffle de vie?
Ah oui, tout à fait. Tous les soignants sont approuvent et sont, je veux dire, aussi acteurs dans cette envie que l'hôpital soit plus vivant. Maintenant, je suis infirmière coordinatrice, mais il y a quelques années, j'étais dans les soins techniques. Et quand vous commencez votre journée et que vous entendez de la musique, que vous voyez qu'il y a un goûter qui s'organise, eh ben, vous êtes pris par aussi cette vie et vous êtes aussi, ça égaye aussi votre travail au quotidien. Et non, tous les soignants sont vraiment heureux et favorable à ce que, même s'ils peuvent pas, quand ils sont pris par leurs soins, etc., peuvent pas être complètement dans ce qui se passe dans les activités, mais ils sont à côté et ils sont complètement dedans, quoi.
Élodie Thébault, au-delà de votre expérience d'enseignante, à Curie, vous avez créé une association, elle s'appelle NOC, c'est bien ça? Vous pouvez nous dire un petit peu quelle est sa vocation?
NOC a pour vocation d'implanter des ateliers d'art plastique dans des services hospitaliers pour des enfants atteints de maladies, on va dire, en tout cas d'hospitalisation en longue durée. L'idée, c'est vraiment de s'implanter. Quand je dis s'implanter, c'est qu'on s'installe dans un service, on veut y rester, on veut s'implanter durablement. L'idée, c'est qu'il y ait ce lien qui puisse se créer avec l'intervenant, qui puisse créer vraiment un espace qui soit un repère pour l'enfant. C'est-à-dire que sur une année, l'enfant sait que le cours d'art plastique va avoir lieu le lundi et le mardi. Et l'enfant va venir de lui-même. Parfois même, hors traitement, les enfants reviennent, juste parce qu'ils savent que c'est un espace où ils ont pris du plaisir, où ils ont créé, où on a partagé des moments forts. Donc c'est vraiment important de créer ce lien. Donc il y a deux ateliers actuellement et l'idée c'est d'en développer ailleurs.
Et que deviennent les dessins que font les enfants à l'hôpital et dans ces ateliers, Élodie Thébault?
Ah, ces dessins, ce sont des œuvres. Donc nous les exposons régulièrement, à la fois dans l'hôpital lui-même, mais aussi à l'extérieur, dans des lieux culturels. La dernière exposition, par exemple, était dans la galerie de Yann Arthus-Bertrand, dans le 6e arrondissement. L'idée, c'est vraiment de pouvoir réunir les familles, les soignants, dans un autre lieu, plus tard, dans un autre temps, hors et loin des soins, on va dire. Et c'est des moments, en général, qui sont vraiment festifs, qui sont très valorisants pour les familles, pour les enfants, pour la fratrie qui vient aussi, parce que les frères et sœurs participent aussi régulièrement à l'atelier. Donc c'est un moment où on embarque un peu tout le monde, loin de l'hôpital, et on montre à quel point les élèves ont bien travaillé et ont créé vraiment des œuvres.
Béatrice Collat-Delanoux, peut-être que des gens qui nous écoutent auront une forme de vocation pour devenir bénévole. Est-ce que vous pourriez nous donner, à votre avis, selon votre expérience, les traits, le tempérament qu'il faut pour être bénévole, en tout cas ce qu'il ne faut pas être peut-être?
Alors la première chose qu'on fait quand on veut devenir bénévole, par exemple dans Main dans la Main, on envoie une lettre en expliquant sa motivation. Après, on a une première réunion pour vous dire, bon, oui, chacun parle, est pris ou n'est pas pris. Et après, quand on est accepté, alors, ce qu'il faut faire, je pense, c'est d'abord avoir envie de jouer. Je parle de mon cas personnel, je connais pas le cas de tous les autres, mais je pense que c'est ça, envie de partager un moment où, bon, moi, je répète, j'aime énormément jouer, et je m'aperçois que les enfants... Non seulement ils ont un besoin de jouer, mais c'est une chose naturelle d'accueillir le jeu. Et ils ont cette capacité que je trouve extraordinaire. Au moment où on joue, que ce soit un quart d'heure ou une demi-heure, c'est carrément une évasion. C'est comme s'il n'existait plus rien autour. Alors, pour être bénévole, bon, il faut avoir une certaine disponibilité. Pas trop non plus, parce qu'on a une vie personnelle, on a une vie de famille, etc. Et c'est aimer partager et se dire que ces enfants, on est là pour un temps donné et que ça va éclairer leur journée d'hôpital. Et surtout, ce qui me touche, c'est que des enfants, quand ils viennent pour la première fois, bon, alors on leur dit bienvenue, etc. Et généralement, les parents disent, bon, on sera là, je sais pas, mardi prochain. Et à ce moment-là, il y a La première fois où l'enfant a un petit peu peur, j'ai dit, bah, par exemple, moi je serai là, dans mon cas personnel, mardi prochain, si tu veux, on fera ça. Il y a aussi le barrage de la langue qui peut se poser, mais avec les signes, des bruits, des gestes, ça marche très bien. Donc les bénévoles qui sont là sont des bénévoles très joyeuses, parce que c'est vous qui êtes, Madame Simons, qui avez abordé le sujet. À quel est, jusqu'où on peut s'approcher de ce qui peut être la souffrance d'un enfant et la souffrance d'un parent. Et moi je dis, en effet, il y a empathie, mais c'est jusqu'au bord de. Je crois qu'il y a un très joli poème de Rilke qui dit ça. Je peux être jusqu'au bord de toi-même. Si je passe de l'autre côté, je viens plus, parce qu'à ce moment-là, je commence à souffrir. Alors, je m'interroge, mais je reste toujours sur cette limite de pouvoir continuer à être joyeuse et de pouvoir jouer.
Vous arrêtez parce que là, vous allez me tirer des larmes. Alors, art plastique, lecture, jeu, clown, autre activité, c'est du cinéma hein, aussi à l'hôpital, du cinéma. C'est ce que vous proposez. Isabelle Zwanda, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de Rêve de cinéma. Alors, expliquez-nous comment, Isabelle Zwanda, est-ce qu'on organise des projections à l'hôpital ?
Alors, c'est pas si simple que ça, mais c'est pour le plus grand bonheur des enfants. Et j'ai écouté les personnes qui parlaient autour de vous et je rejoins tout à fait ce qu'elles disent, car on vit à peu près la même chose. Donc nous arrivons avec 1,5 tonne de matériel, avec une équipe de projectionnistes professionnels. Et dans les foyers des hôpitaux ou des centres spécialisés pour enfants malades ou adolescents handicapés, on recrée intégralement une salle de cinéma. Donc on monte l'écran, on monte la sono, on a des films qui nous sont prêtés par des distributeurs, puisqu'on présente les films qui passent en salle au moment de leur sortie. La seule chose qui diverge d'une salle de cinéma, ce sont les fauteuils, car les enfants arrivent dans des lits avec les fauteuils roulants ou ils arrivent et on met des chaises pour qu'ils puissent s'asseoir et regarder le film. Voilà.
Avec une petite forêt parfois de potence avec les transfusions. Comment est-ce que vous choisissez les films qui sont projetés, Isabelle Zwanda ?
Alors les films, donc ça fait 20 ans que l'association existe, donc on connaît bien notre public. C'est un public qui va de 3 à 18 ans, donc il y a à peu près 3-4 films qui sont sélectionnés. Donc ce sont bien évidemment des films en français, sans sous-titrage, avec des c'est surtout, il y a beaucoup de Disney qui est notre grand partenaire, sont des films gays, sont des films où on ne parle pas de la maladie, où on ne parle que de choses gays, puisque nous, ce qui nous importe, c'est que l'enfant puisse sortir de la maladie pendant 1h30, pendant 2h, et puisse rire. On lutte comme ça contre l'isolement de ces personnes et pour qu'ils puissent voir autre chose et pour qu'ils puissent être dans la réalité de ce qui se passe à l'extérieur de l'hôpital ou des centres pour pouvoir en parler avec leur famille, avec leurs frères, leurs sœurs, leurs neveux, etc., etc. Donc ce qui est très très important pour nous, c'est d'avoir des films gays que les enfants voient en masse quand ils ont la chance d'aller dans les salles de cinéma. Et quand ils n'ont pas la chance, c'est à nous de leur donner cette chance et d'amener ces films dans les hôpitaux.
Et vous avez aussi des équipes de réalisateurs ou des comédiens qui se déplacent parfois justement en milieu hospitalier ?
Tout à fait. On a la chance d'avoir des parrains, des généreux parrains qui viennent. Et puis dès qu'on leur demande, ce sont des gens qui ne connaissent pas beaucoup l'association, dès qu'on leur demande de venir parler aux enfants, il n'y a aucune hésitation. Les réalisateurs se déplacent, les comédiens se déplacent et ça fait un bien fou à ces enfants qui ont vu le personnage dans le film et qui le retrouvent devant eux et qui généralement passent 1 heure. Les enfants ont préparé des questions la veille pour la personne qui vient leur parler. Les comédiens offrent des dessins, des cadeaux. C'est un moment d'émerveillement total.
Merci beaucoup Isabelle Zwanda d'avoir été en ligne avec nous, directrice générale de l'association Rêve de cinéma. On retrouve nos invités en studio. Élodie Thébault, est-ce que le corps médical, les soignants, s'intéressent aux productions de leurs patients ?
Absolument. Ils s'y intéressent, mais ils n'ont pas le droit d'entrer dans l'atelier. Ça reste un lieu privilégié. Les blouses blanches sont mises dehors, sauf urgence, évidemment. On travaille sur des projets qui impliquent vraiment l'équipe médicale. Le dernier projet en cours est autour de la question de l'autoportrait. Et je prends en photo... Les enfants ont du mal à aborder la prise de photo en direct sur leur propre image. Donc, je passe par le biais des soignants. Je prends en photo les soignants. De manière numérique, nous les rasons. Et les enfants recréent une coiffe extraordinaire par des accumulations de choses incroyables comme des animaux, des bestioles, des plantes, etc. Et très souvent, il y a des résultats étonnants sur les médecins, sur les infirmières. Et ce sera la prochaine exposition.
Et entre eux, ils commentent les jeunes malades. Ils commentent leurs œuvres. Ils en disent un petit peu des choses. Est-ce qu'il y a des interprétations sans aller dans l'interprétation psychologisante, mais est-ce qu'ils, justement, ils commentent par rapport éventuellement à leur affection ?
Ça arrive, mais disons que c'est pas provoqué, jamais, dans l'atelier. On ne va pas chercher ce type d'information. Après, si elle arrive, elle est accueillie et on peut en parler. Ils peuvent en parler entre eux, bien sûr, ou avec moi, évidemment. Parfois, il y a des créations qui, évidemment, sont très, très touchantes et très liées à la maladie, et parfois, absolument pas.
On a parlé de ces activités très variées avec les unes et les autres. Pour ce qui est maintenant de l'évaluation de ces interventions sur le processus thérapeutique, Marie-Cécile Lefort, est-ce qu'il existe des données, justement, ou des retours, voire même lors des fameuses réunions d'équipe, est-ce qu'on évalue l'impact de ces actions, de ces ateliers sur la santé des patients ?
Alors, il n'existe pas de données chiffrées. On a des retours. Hein. Et par exemple, les jeunes, dans notre service, on s'occupe des 15-25 ans. Ils expriment beaucoup ils caractérisent ça comme ça, d'une double peine, être jeune et avoir un cancer. Et ils expriment ce besoin de respecter leur vie de jeune et le fait qu'eux, ils s'émancipent et qu'ils sont en train de rentrer dans la vie, hein. Et donc, tout ce qui peut être proposé et qui va dans ce sens-là, eh ben, il remonte comme quelque chose de très favorable et très positif pour eux. Il y a une grande chose qui demande, c'est à la fois respecter leur intimité, mais pouvoir rencontrer leur père PAIRS. Et par toutes ces activités, c'est comme ça qu'ils vont rentrer en lien. C'est en allant à l'atelier d'art plastique, c'est en allant à la musique, etc.
Fréquenter des jeunes, tout simplement.
Voilà, et rencontrer d'autres pères. Et ça, ils l'expriment dans tous les congrès où les patients sont invités, où les jeunes patients sont invités, ils expriment le besoin de rencontrer leur père et comme quoi ça leur fait du bien, ils en ont besoin.
Caroline Simone, vous voulez réagir ?
Oui. Mon assistante Flora vient de compiler à peu près une liste de plus de 75 articles publiés sur le clown à l'hôpital. Donc ça va d'Israël en passant par le Canada et la France. Moi, j'ai publié avec Daniel Oppenheim, c'était mon première publication en 97 dans le Lancet, qui est pas rien. Donc, évidemment, c'est du qualitatif. Donc, on mesurait le taux de son. C'est un peu difficile. Mais récemment, on avait trois étudiants en maîtrise de Paris-Descartes qui ont fait une étude sur les effets secondaire, positive, on espérait, en maternité. On intervient maintenant tous les mardis soirs à Colombie Bicêtre pour les mamans qui vont pas toujours très bien avec des nouveau-nés. Donc, les résultats sont, premièrement, ils appréciaient beaucoup, beaucoup les interventions musicales. On est essentiellement 80% en personnage musical, donc berceuse, très adaptée à la culture, etc. Deuxièmement, il y avait un baisse d'angoisse significative, j'ai dit le mot, c'est bien, parce que il y avait des questionnaires avant notre intervention et des questionnaires après. Mm-hmm. Donc c'était une étude qui était faite sur une soixantaine de mamans. Et puis troisièmement, il y avait une meilleure image du bébé qui peut contribuer à peut-être une prévention de maltraitance plus tard et certainement un bonding, ça s'appelle
sur l'attachement.
L'attachement d'une meilleure qualité dans le moment. Donc tous ces petits moments s'ajoutent les uns les autres.
Oui, parce qu'on a beaucoup parlé des enfants, justement, vous me permettez de faire la transition avec ces mamans, parce que ces activités, elles sont destinées aussi aux différents âges de la vie, y compris
le troisième âge, les personnes qui sont en maison de retraite, tout ça aussi, c'est très important d'amener la vie dans tous ces établissements.
Absolument. Je veux dire, depuis que je suis en France, et ça fait 27 ans, j'ai vu vraiment la naissance des programmes clownesques, on va dire, en situation de handicap, mais aussi en maison de retraite ou dans les EHPAD. Et c'est un travail qui est très spécifique. Il y a des gens formidables qui fait ça maintenant depuis au moins une dizaine d'années. Et là, nous, on a initié un programme pour les mamans qui viennent d'accoucher, parce qu'on sait très bien que la dépression maternelle est vraiment un sujet à creuser. Un tiers des mamans fait une expérience de baby blues, et ça peut devenir des dépressions, je veux dire, chroniques, si ils sont pas pris à temps. Donc, on intervient vraiment sur les liens mère-enfant. Les sages-femmes, on est très complices avec elles, elles sont absolument prodigieuses. Elles nous préparent les transmissions en disant que ce moment-là, elle vient d'arriver de la Syrie, elle vient d'accoucher, elle a pas de famille ici. Ce moment-là, elle vient du fin fond d'Afrique, mais elle est là depuis 10 ans, mais elle ne parle pas le français. Et elle est un peu paumée, elle a 5 enfants à la maison et un mari qui peut pas venir. Tu vois, donc on a des cas très spécifiques où un besoin, justement, apaisement ou stimulation très important. Je me souviens toujours d'un maman qui n'a pas touché son bébé depuis 2 jours et qu'il y avait le mari qui tenait le bébé dans un petit coin. Avec une chanson qui s'appelle « Plus je t'embrasse ».
Plus j'aime t'embrasser.
Oui, plus je t'embrasse. On a réussi à les mettre tous les deux sur le lit avec le bébé entre les deux. Et c'était de l'indirect en même temps. Il n'y avait pas d'intention. Il y a de l'attention. C'est tout le débat cure et care. On est vraiment dans le care, c'est-à-dire dans l'attention, pas l'intention.
Le respect absolu. Béatrice Collat de Lanoux, 12 ans de bénévolat. Est-ce que votre regard sur l'hôpital a changé depuis que vous avez commencé?
Oui.
Qu'est-ce qui a changé?
L'hôpital, pour moi, c'était la toute petite expérience que moi j'en avais, celle que ma fille en avait aussi. Donc c'était vraiment quelque chose de très très froid, où on avait très très peur. On n'osait pas trop s'adresser au médecin, on se demandait si l'infirmière allait être gentille. Et là, je découvre, parce que pendant ces 12 ans, j'ai changé de service plusieurs fois et je suis revenue à mon service d'origine. Il y a une amitié, quelque chose qui est très très chaleureux qui se passe avec le personnel soignant. Qui est, je ne sais pas s'il est exceptionnel dans cet hôpital, je pense que non, j'espère que non, mais c'est très amical. Les infirmières vous disent, bon bah tu t'en vas 5 minutes parce que je vais faire, je sais pas quoi, une perfusion ou un soin, et puis reviens. Il y a quelque chose qui est très complémentaire, qui ne pourrait pas se faire sans ce personnel hospitalier, qui est extrêmement accueillant, content, parce que nous, notre association ne vient que sur demande du chef de service. Et vraiment, oui, mon regard a changé. Je parle de l'hôpital Necker, parce que c'est un hôpital pour enfants, je pense qu'à Curie, mais ce sont des adultes, donc je ne sais pas comment ça se passe. Là, je trouve que tout est fait pour que l'enfant soit bien, mais ça ne peut se passer bien que si les médecins et les infirmières
sont présents. Curie aussi, il y a des enfants, il y a des ados, il y a différentes tranches d'âge. Élodie Thébault, est-ce que les choses ont changé? Moi, c'est ma question. Les choses ont changé à l'hôpital ces 10 dernières années. Vous exercez, vous m'avez dit tout à l'heure, depuis une dizaine d'années. Est-ce que vous trouvez que des choses changent ou finalement, on reste dans un monde assez constant?
Non, je pense que les choses changent vraiment dans le sens où il y a une manière d'approcher l'enfant malade qui est dans la complémentarité, dans l'interdisciplinarité.
Arrêté.
C'est bon, pas facile à dire non plus. Je suis pas américaine pourtant, mais. voilà. L'idée, c'est qu'on sent qu'il y a une volonté des chefs de service d'amener l'art à l'hôpital, d'amener du bien-être, d'amener des choses extérieures pour vraiment améliorer le quotidien des enfants malades. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir un terrain d'expérimentation génial, puisque mon chef de service, Jean Michon, et maintenant Daniel Orbach, me permettent de faire un peu ce que je veux dans ce service. Donc ce qui a changé, c'est l'environnement visuel aussi, c'est-à-dire que nous intervenons avec des stickers créés par les enfants sur les portes d'ascenseur, les portes de chambre, l'intérieur des chambres, etc.
Ils sont chez eux.
Ils sont chez eux. Disons que quand on passe la porte de l'ascenseur, on entre dans un service de pédiatrie. Un service où l'enfance, le rire, la joie a le droit d'être. Et ça, c'est vraiment important. Et ça passe par le visuel, ça passe par des futures blouses des médecins qui vont être lookés, des projets comme ça un peu fous, que j'ai la chance d'expérimenter à l'Institut Curie et également à l'hôpital Necker.
Marie-Cécile Leforest, est-ce qu'on peut dire que finalement, peut-être que ça va vous choquer, mais le patient est plus important qu'avant? Pas simplement le malade, mais la personne qui est soignée, qui est accompagnée.
Alors, le dire comme ça est peut-être un peu brutal, mais sur le fond, il y a du vrai. C'est-à-dire qu'on travaille plus. Je trouve que ce qui a changé, c'est qu'on est plus à l'écoute du patient, c'est-à-dire que les associations de patients, on travaille plus en partenariat. Voilà, on est plus, c'est pas
le monde contre un autre.
Un monde contre un autre. Ça a beaucoup changé, ça change et voilà ce qui a changé. C'est le lien entre le patient et les soignants qui est beaucoup plus fort et on travaille en partenariat avec un climat de confiance et c'est ça qui change.
Même question pour vous, hein, Caroline Simons, en conclusion, vous êtes clown à l'hôpital, vous, depuis près de 25 ans, non?
30 ans. Oh, j'ai célébré mes 30 ans de clown à l'hôpital.
Alors là, une question un peu différente. Est-ce que les enfants ont changé?
Est-ce que les enfants ont changé?
Bah oui.
Oui, mais il y a les écrans maintenant. Je veux dire, un des plus grands changements, c'est la présence des écrans. Avant, il y avait les télévisions. Et justement, on a fait venir un grand expert, Serge Tisserand, pour nous aider à comprendre comment agir en clown quand la télévision est allumée. On veut pas non plus couper Harry Potter quand même. Dieu merci que si on coupe, c'est le clown. Mais nous, par exemple, maintenant, on dit, mais c'est qui là-dedans, tu vois? Mm-mm. Ah, c'est moi, oui, oui. Et moi, je suis qui? Ah, c'est toi, t'es le chien. Tu vois? Donc, on a appris aussi à s'adapter à ce changement numérique, quelque part. Je trouve, médicalement, il y a moins de symptômes. On va dire, on a traité en cancéro, par exemple, des symptômes. On voit les enfants en fin de vie, moins douloureux. On a fait un énorme progrès sur la douleur. Ça les rend plus ouverts à des activités. En même temps, ça, il faut le dire. Hommage à des gens comme Annie Gauvin-Picard, Daniel Henkin, Michel Meunier, des pionniers sur le traitement des douleurs des enfants. Et que maintenant, c'est suivi presque de partout, même dans les urgences. Quand on fait un ponction lombaire, on met le crémème là, on accepte que le comédien chante quelque chose, qu'on accompagne des soins. Là, quelque chose, nous, on a évolué aussi. On accompagne des soins douloureuses dans énormément de services maintenant. Alors que, comme les murs étaient un orange caca il y a 27 ans, maintenant, ils sont aux couleurs des enfants grâce à des gens comme Elodie. Je veux dire, ma fille fait le même métier qu'Elodie, donc je suis très passionnée par l'émergence des arts hospitaliers. Je veux dire, on peut, vous voudrez qu'il y a un ministère de la culture des arts hospitaliers, parce que c'est pas tellement reconnu par le ministère de la culture non plus.
Je veux dire, c'est à cheval entre la santé.
Franchement, ni la santé. Je dis, on a contribué énormément à ouvrir les portes, qu'on a un peu moins peur de cette regard de pitié vers des enfants malades. Maintenant, on les voit plus comme des personnes, grâce aux médias. Grâce à des gens comme vous qui diffusent des programmes pareils, la télévision, mais aussi grâce aux hôpitaux qui ont leur service de communication s'est ouvert. Et on n'a pas ces émissions, on a pitié, on voit que la vie vraiment continue à l'hôpital pour les enfants, pour les adultes, pour les parents. Pas des soignants.
Voilà, c'était quelle conclusion.
Ouf.
J'ai plus rien à dire. Associer la culture, l'éducation, le divertissement à l'hospitalisation. Merci beaucoup à vous toutes de nous avoir fait découvrir cette autre facette de l'hôpital. Merci Caroline Simons, fondatrice de l'association Le Rire Médecin, directrice artistique et clown à l'hôpital. Marie-Cécile Lefort, infirmière coordinatrice adolescents, jeunes adultes à l'Institut Curie. Merci à vous. Élodie Thébault, professeure d'art plastique à l'Institut Curie également, fondatrice de l'association NOC, qui nous on crée, hein, c'est ce que veut dire NOC, qui propose ses ateliers d'art plastique aux enfants et aux jeunes adultes hospitalisés pour des maladies graves. Et à vous, Béatrice Collat de Lanoux, bénévole pour l'association La Main dans la Main à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Sigrid Azéroual, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Demain, on parlera de la santé bucco-dentaire. Pour vos questions, le numéro, c'est le 33 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Profitez d'une assurance santé complète et efficace où que vous soyez. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.